Il est 7h, bon réveil à tous.
Encore une fois, si chacun de nous voit un peu moins de personnes par jour, fait un peu plus attention à la distance et au respect des gestes barrières, alors nous réussirons à vaincre ce virus.
Un appel à la responsabilité lancé hier soir par Olivier Véran, mais aussi des restrictions plus sévères, notamment pour les deux zones d'alerte renforcées, Aix-Marseille et la Guadeloupe. Les bars et les restaurants devront fermer dès samedi. Dans les 69 départements en alerte, les fêtes en tout genre, et notamment les mariages, seront limités à 30 personnes. Difficile à admettre, quand on prépare le jour J depuis des mois, certains comptent déjà transgresser la règle. Une école clandestine musulmane fermée par le ministre de l'Intérieur à Sevran, mais officiellement pour raisons sanitaires, on va vous expliquer pourquoi. Et puis une voix s'est éteinte, et quelle voix ? Celle de la jolie môme, rauque, gouailleuse Juliette Gréco, qui avait chanté les textes des plus grands, Prévert, Brel, Gainsbourg, mais aussi Benjamin Biolay et Miossec.
Juste après ce journal, les banques ont-elles encore besoin d'un réseau d'agences ? L'éclairage éco de Nicolas Barré, le sacre très discret de Loukachenko en Biélorussie, le regard international de Vincent Hervouet. Il faut sauver les clubs et oublier les enjeux sportifs. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour parler d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Non pas 50, mais 3 nuances de rouge dans la nouvelle carte de France présentée hier soir par Olivier Véran. Du rouge clair pour les zones d'alerte, du rouge foncé pour les zones d'alerte renforcées et même du très foncé pour celles en alerte maximale. Avec vous Anne Le Gall, on y voit plus clair ce matin.
Oui, alors l'alerte renforcée, pour faire simple, concerne des villes dans lesquelles le virus circule dangereusement, notamment chez des personnes âgées. 11 villes sont concernées, Paris et sa couronne, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, des villes qui s'ajoutent à celles de Bordeaux, Lyon et Nice qui étaient déjà dans ce cas de figure depuis quelques jours. Et dans toutes ces villes, les règles sanitaires vont devenir plus strictes. Les bars fermeront au plus tard à 22h à partir de lundi. Les rassemblements y seront limités à 1000 personnes au lieu de 5000. Et toutes les salles de sport, les gymnases et les salles des fêtes resteront fermées pendant au moins 15 jours.
Dans ces zones d'alerte renforcée, les restaurants échappent aux restrictions. En revanche, dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe, le ministre de la Santé annonce un tour de vis supplémentaire.
Oui, et c'est parce que la Guadeloupe et l'agglomération d'Aix-Marseille ont été placées, elles, en zone d'alerte maximale. C'est encore un cran au-dessus, car dans ces zones, la situation commence à devenir inquiétante dans les services de réanimation. Et pour enrayer la circulation du virus, il faut donc frapper plus fort. D'où la fermeture pure et simple des bars et restaurants et de certains lieux publics. D'où la protection des EHPAD, qui est également renforcée avec des visites sur rendez-vous et davantage de tests. Enfin, le télétravail doit être privilégié dans ces zones. Autant de mesures qui s'appliqueront pendant au moins 2 semaines en concertation avec les préfets.
Alors Anne Le Gall, vous parliez donc de 2 semaines de restrictions, qui sont d'ailleurs particulièrement mal vécues à Marseille, où dès hier soir, la maire Michèle Rubirola exprimait sa colère sur Twitter. « Je n'accepte pas que les Marseillais soient victimes de décisions politiques que personne ne peut comprendre. »
Pourtant, Olivier Véran s'est voulu très clair hier soir. Pour Marseille, comme pour tout le reste de la France, chacun à son niveau doit faire un effort et limiter ses contacts avec l'extérieur autant que possible.
Il ne faut pas multiplier les dîners. Il faut éviter de sortir plusieurs fois par semaine avec des personnes différentes. Encore une fois, si chacun de nous voit un peu moins de personnes par jour, fait un peu plus attention à la distance et au respect des gestes barrières, alors nous réussirons à vaincre ce virus. Certains pays ont parlé du concept de bulle sociale. C'est un peu le concept dont je vous parle ce soir, avec cet effort collectif qui est la clé de notre capacité à maîtriser le virus.
Un effort collectif, ça passe aussi dans les 69 départements en alerte par des fêtes en plus petits comités, que ce soit des anniversaires, des événements associatifs ou encore des mariages. Ce sera 30 personnes, pas une de plus.
30 personnes, très mauvaise nouvelle pour Lucie qui a prévu de se marier le 3 octobre dans la Drôme. 2 ans qu'avec son fiancé, elle organise tout pour le grand jour. Alors, pas question de limiter sa liste d'invités.
Il est hors de question pour nous de choisir 30 invités, ça sera non. Je fais déjà un premier choix à la mairie. Je ne pourrai pas avoir mes grands-parents qui vont entendre le oui qui m'engage à la mairie. Donc à un moment donné, je dis stop, j'ai eu assez de concessions. Ma salle me suit, mon photographe me suit, et on se marie coûte que coûte à 58 personnes dans moins de 10 jours. J'entends parfaitement qu'il faille à un moment donné poser des limites. Mais moi aussi, à mon mariage, il y aura des gestes barrières. Moi aussi, il y aura du gel. Moi aussi, les gens seront masqués. Mais aujourd'hui, j'accepte pas de devoir payer le prix d'avoir eu des plages bondées pendant l'été, d'avoir eu des restaurants avec des terrasses bondées. Et pourquoi on m'interdit à moi aujourd'hui alors que je me suis privée pendant des mois? Eh bien aujourd'hui, moi, je choisis de prendre le risque. Tant pis si on est hors la loi, je vais pas me laisser gâcher mon mariage.
Voilà, Lucie, au micro de Romain Noquet. À Paris, on l'a dit, les bars vont fermer au plus tard à 22h à partir de lundi. Risque économique immense, dit-on à la mairie. L'horaire précis dans la capitale, comme dans les 11 villes concernées par l'alerte renforcée, sera décidé par les préfets.
Michaël Darmon, ce que vous nous révélez ce matin, c'est que tout n'est pas réglé, qu'il reste une marge de négociation sur des sujets sensibles, notamment les lieux de culte.
Et oui, parce qu'en principe, l'annonce de la fermeture des salles de fête obligerait notamment les rencontres pour les communautés juives qui veulent organiser donc, la fête de Kippour ce week-end, et ce serait impossible. Donc, le consistoire négocie actuellement avec les autorités. Et c'est la même chose pour les autres religions, y compris à Marseille, zone d'alerte renforcée. Les lieux de culte ont été épargnés, ce qui n'est pas anodin concernant le culte musulman, alors que le ministère de l'Intérieur est en pleine préparation d'un projet de loi très délicat sur le séparatisme. Plus généralement, je peux vous dire qu'effectivement, il existe de fortes divergences au sein du gouvernement entre ceux qui pensent qu'il ne faut pas hésiter à se montrer restrictif et ceux qui craignent que les Français à bout de nerfs n'acceptent pas ce nouveau tour de vis.
Et c'est la raison pour laquelle Olivier Véran a tenu à annoncer lui-même ces nouvelles restrictions, Michael.
Oui, il y a eu un bras de fer toute la journée. Olivier Véran a tenu à endosser cette responsabilité politique alors que la préfecture de police, elle, voulait le faire. Une question d'autorité pour Olivier Véran qui a été, on s'en souvient, mis sous pression lors d'un précédent conseil de défense à propos de la qualité du plan qu'il proposait. Matignon a finalement tranché, le ministre de la Santé a pu lancer le tour de vis. Vouloir à tout prix annoncer de mauvaises nouvelles, voilà qui n'est pas anodin.
Michaël Darmon, merci Michaël. Et François Asselin, notez-le, il y a deux volets, vous le savez bien, l'urgence sanitaire et l'urgence économique. François Asselin, patron de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, sera l'invité politique de la matinale à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. 7h07 sur Europe 1. C'est une journée importante qui s'annonce dans le procès des attentats de janvier 2015. La cour d'assises va se pencher sur les antécédents des auteurs des tueries de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher.
Oui, leur parcours, leur radicalisation, illustration de la difficulté de lutter justement contre une certaine forme de radicalisation, les écoles musulmanes clandestines. En fait, ce ne sont pas vraiment des écoles, mais des associations qui prétendent enseigner. Gérald Darmanin, qui défend sa future loi sur les séparatismes, a décidé de fermer l'une d'elles à Sevran, en Seine-Saint-Denis, mais officiellement pour des raisons sanitaires. Virginie Riva.
C'est le maire de Sevran qui signale la fausse école à la préfecture il y a un an, alerté par les va-et-vient de parents devant d'anciens hangars près du centre commercial de la ville. Effectivement, l'association Amana accueille un peu plus de 70 élèves, alors que la plupart sont déclarés officiellement par leurs parents en instruction à domicile. Deuxième problème, l'école n'est pas déclarée comme telle à l'éducation nationale. Pourtant, sur un site internet qui répertorie les écoles musulmanes, l'association se présente bien comme une école privée dispensant des enseignements de niveau maternel et primaire. La préfecture fait son enquête, le ministre Gérald Darmanin parle d'endoctrinement des enfants, comprendre endoctrinement sur fond d'islam politique. L'école clandestine est finalement fermée jeudi dernier, mais pour raison sanitaire. C'est le seul motif prévu aujourd'hui par la loi. Le local n'est pas aux normes de sécurité. Impossible d'invoquer des raisons de contenu des enseignements, car pour l'éducation nationale, cette école n'existe pas. Elle peut simplement faire des inspections au domicile des enfants pour évaluer leur niveau. C'est tout l'objectif de la future loi, avoir des outils pour contrer ces associations sur le fond. Un phénomène à suivre, car ces écoles se développent également sur Internet.
Virginie Riva. L'Assemblée a largement voté la nuit dernière le projet de loi sur la recherche avec une hausse de budget de 30% entre 2021 et 2030. Il passera de 15 à 20 milliards d'euros par an. Et puis aux États-Unis, l'hommage officiel à la juge Ruth Bader Ginsburg se poursuit. Son cercueil est exposé à la Cour suprême à Washington. Donald Trump doit s'y rendre dans la journée.
Ils étaient des stars, chacun dans leur domaine. Et star, c'est un euphémisme. Le chef 3 étoiles, Pierre Troisgros, est mort hier près de Rouen. Il avait 92 ans. Et puis, la chanson française est en deuil, elle aussi.
Oui, Juliette Gréco, 60 ans de carrière, s'est éteinte hier chez elle à Ramatuelle. La muse de Saint-Germain-des-Prés est immortelle, écrivait Emmanuel Macron pour lui rendre hommage. Une vie de drame, d'amour et de rencontre. Angèle Châtelier.
Sous le ciel de Paris.
Un Paris qu'elle aura éclairé toute sa vie. La fin de la Seconde Guerre, loin de l'ivresse insouciante de la libération, Juliette Gréco a 15 ans, une orpheline sur les pavés de l'avenue Foch. Sa mère et sa sœur résistantes ont été déportées. Elle sera recueillie par une ancienne professeure, Hélène Duc, qui habite rive gauche, à quelques pas de Saint-Germain-des-Prés, qui deviendra son univers, sa scène, son royaume. Elle y rencontrera notamment Boris Vian et Jean-Paul Sartre, qui signera sa première chanson.
Oh là. rue des blancs manteaux.
La petite Juliette devient la grande Gréco. L'élégance, la poésie, l'intelligentsia parisienne, l'amante de Miles Davis, puis l'épouse du pianiste Gérard Jouannet. En 2009, elle confiait à Europe 1 de sa voix rauque ce que voulait dire servir un texte.
C'est essayer de rendre intelligibles des choses qui ne sont pas toujours, magnifier les mots, servir au maximum celui ou celle qui a écrit.
Il y a eu les mots de Robert Niel, deux mots, une irrésistible invitation, déshabillez-moi.
Dévorez-moi les yeux.
Puis les mots de Brel, de Gainsbourg, plus récemment ceux de Miossec, de Biolay. À quoi sert la vie si elle n'est pas un combat, si ce n'est pas un désir, répétait souvent celle qui monta sur scène pour la dernière fois en 2016, à 89 ans, enveloppée de son éternelle robe noire.
Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi. Avec délicatesse.
Juliette Gréco, quelle voix et quel plaisir aussi de l'entendre ce matin.
C'est formidable d'entendre déshabillez-moi à l'heure où on doit s'habiller. Non,
c'est ça, nos auditeurs ont la serviette autour de la taille, ils sont en train de se préparer. Déshabillez-moi. Écoutez bien, tout à l'heure dans le journal de 8h, vous entendrez la voix de Juliette Gréco parler de ce que c'était pour elle que d'interpréter les plus grands en l'occurrence. L'interprétation selon Juliette Gréco, c'est à 8h tout à l'heure. Merci Hélène Zellani, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.